L'après-match avec Jalal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match. L'occasion pour nous, bien sûr, de revenir sur tout ce qui a fait l'actualité du football en Europe, surtout, mais aussi un petit peu chez nous, en Afrique, l'Europe, avec tout d'abord la Liga espagnole, avec cet événement, Grenade, seul leader. La Real Sociedad et Séville toujours en contact, bien sûr, en attendant que le Barça et le Real Madrid jouent. Le Barça qui accueille Valladolid mardi prochain à l'occasion de la 11e journée, qui paraît le mieux placé, bien sûr, pour reprendre les commandes de cette Liga en France. Paris toujours aussi intouchable dans le classico français face à Marseille. Le PSG qui a surclassé l'OM, 4-0, les 4 buts inscrits en première période. On reviendra également sur le championnat d'Angleterre où le leader Liverpool a remporté un match complexe contre Tottenham 2-1 après avoir été mené au score 1-0 et conserve ses 6 points d'avance sur Manchester City. En Allemagne, l'équipe du Borussia Mönchengladbach qui conserve seule la tête de la Bundesliga devant le Bayern de Munich. Et puis en Italie, totalement déchaîné, l'Atalanta Bergame s'est imposé 7-1 contre l'Udinese et a confirmé sa 3e place au classement tout en se rapprochant de la Juventus et de l'Inter. La Juventus qui n'a pas gagné à l'occasion de cette 9e journée. On commence par recevoir notre ami Fred Hermel. Salut Fred.
Ça ne va pas les week-ends sans Classico, hein, ouais. Quand le Real et le Barça jouent pas. Ah là, je suis de mauvaise humeur, hein, vraiment, ça doit être ça. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Je vous préviens, il y a des jours comme ça où il y a plein de gens qui t'embêtent. Pas vous, bien entendu, quoi. Mais j'ai eu une sale journée et je crois que c'est le manque de Classico qui se sent.
Et une sale journée qui se termine. Et je peux te dire qu'à partir de ce moment, tu vas passer une magnifique soirée. Souviens-toi, je vais...
J'en suis sûr, parce que ta douce voix et les oreilles attentives des auditeurs vont me remonter le moral.
Oui, il a toujours le moral. Il a aussi eu un super classico. C'est Hervé Penaud. Salut Hervé.
Bonjour les amis, quel plaisir d'être avec vous. Mais je vais vous remonter le moral. Moi, il n'y aura aucun souci. Le moral, je l'ai toujours. Et alors après ce qu'on a vécu ce week-end, je l'ai encore plus.
Alors moi, je peux vous dire tout de suite, les amis, j'ai un super moral, puisqu'on s'occupe super bien de moi. Je ne sais pas pourquoi. On me ramène de l'eau, on me dit des choses très sympas à l'oreillette, et notamment à travers mon ami Ilham, qui gère la production, et puis Nawal, la réalisatrice de l'après-match ce soir. Après les Salam Alek, les amis, parlons de foot. Grenade, leader de la Liga. C'est un événement historique.
Ça n'était pas arrivé depuis 46 ans. Mais en plus, ce qu'il y a de plus dingue, c'est que Grenade est un promu quand même. C'est ça qui est fantastique. Qu'au bout de une, deux, voire trois journées, on ait un promu qui soit en tête, ça arrive souvent. Parce que les débuts de championnat, etc. Sauf que là, il y a quand même 10 journées que se sont jouées. On sera bientôt au tiers de la Liga. Alors, on va dire que les points qui sont pris sont déjà ceux qui ne sont pas à prendre. Donc déjà, Grenade est en train, en tout cas, d'assurer une partie de son maintien, qui était bien entendu son seul objectif cette saison. Mais là, c'est une petite aventure magnifique. On dit souvent que les équipes qui montent de deuxième division sont portées, restent dans la dynamique, sont portées par cette dynamique. Mais à ce point-là, bon, ils ont perdu au Bernabéu, donc on aurait pu penser qu'à partir de ce moment-là, voilà, ce serait un peu, voilà, que le rythme aurait été cassé, mais pas du tout. C'est une équipe sérieuse, c'est une équipe qui est excellente au niveau défensif et qui est un mélange de jeunes joueurs et de vieux soldats de la du football comme le Français Gonalons, comme Roberto Soldado. Vous vous souvenez de Soldado, hein, qui a traîné ses guêtres un petit peu partout, notamment à Valence. Voilà, c'est un savant équilibre entre des anciens et des jeunes, des anciens qui ont l'expérience et des jeunes qui ont cette fougue. Et sincèrement, je pense que Grenade est en train de créer un véritable courant de sympathie en sa faveur.
Voilà donc Grenade, sympathique équipe qui crée la sensation en Liga depuis le début de la saison. Cette formation donc du sud de l'Espagne qui s'est imposée face au Betis Séville 1-0. C'est la 6e victoire de la saison, tout de même la 3e sur leurs 4 derniers matchs. Alors c'est vraiment le début de saison de rêve pour les Andalous.
Oui, puis surtout, on n'a pas le sentiment que ça va s'arrêter. C'est-à-dire que c'est, voilà, c'est une équipe qui est bien gérée, qui, je crois, la valeur, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais la valeur de l'ensemble des joueurs, ça doit être 34 millions d'euros. Je ne parle pas des salaires, je parle de la valeur sur le marché. Alors que, je ne sais pas, le Real Barça, ça doit être 800 millions, un truc comme ça, quoi. Enfin, donc c'est un truc de fou, quoi. Mais à partir du moment où ils ont une idée très claire, notamment de bien commencer par la défense, c'est-à-dire voilà, on fait pas de bêtises, on s'emballe pas trop, on a une défense resserrée, et j'insiste, avec des cadres, des anciens qui sont là pour encadrer les jeunes. Sincèrement, on voit pas pourquoi ça s'arrêterait de sitôt. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, et moi qui suis toujours un grand défenseur du football espagnol, c'est que le niveau entre la première et la deuxième division n'est pas élevé, n'est pas très différent. C'est-à-dire quand vous avez une deuxième division, vous avez des équipes comme le Deportivo La Corogne, comme le Sporting de Gijón, comme Las Palmas. Voilà, quand vous avez des clubs historiques comme Cadix en deuxième division, bah, automatiquement le niveau de la D2 est très élevé. Donc le saut vers la première n'est pas si grand que ça. Donc c'est quand même significatif de la bonne santé de l'ensemble des divisions espagnoles.
Voilà donc une Liga qui, bien sûr, a manqué son rendez-vous avec le Classico. Comment ça a été, bon, on en a parlé tout au long de la semaine passée, mais comment on l'a vécu du côté de l'Espagne, ce rendez-vous manqué samedi vers midi, je pense, en heure espagnole.
Alors je viens de vous dire, les amis, que j'étais un grand défenseur du football espagnol, qu'il y a plein de clubs géniaux, mais je vais être honnête, c'est un week-end light. Vraiment, il manquait quelque chose. Faut pas, enfin, je veux dire, je vais pas vous cacher la vérité. C'est comme s'il y avait, oui, c'est comme si il y avait pas de sucre dans le café, quoi. Voilà, un truc ou dans le thé, quoi. Il manquait quelque chose, quoi. C'est ou comme, de piment.
C'est comme si on faisait Fred un après-match sans Fred Hermel. C'est exactement la même chose.
Oui, ben bah pareil, voilà, c'est ça. Quand il n'y a pas ce qu'il y a de mieux, et à tel point que dans les médias, par exemple. On a quand même beaucoup parlé du prochain marché des transferts. C'est dire le trou que laisse dans l'actualité quand le Real ou le Barça ne joue pas, que dans les quotidiens Sport, Mundo Deportivo depuis Barcelone, le AS et Marca depuis Madrid, on commençait à parler déjà du marché du mois de janvier. On parlait du départ de Rakitic au mois de janvier dans la presse catalane. On parlait de peut-être l'intérêt du Real pour Pogba ou Eriksen au mois de janvier. C'est comme s'il fallait combler ce trou. Mais ça va tellement loin. Ce manque de Liga et cette déchirure que représente un week-end sans les deux grosses écuries, c'est que Marca a même fait le classement s'il n'existait pas sans le Barça et sans le Real. Voilà ce que serait la Liga si le Real et le Barça n'existaient pas. Voilà, donc c'est dire s'il y a eu un vrai manque ce week-end et qu'on ne s'est pas tellement amusé. Heureusement qu'il y a eu Grenade dont on vient de parler pour mettre un petit peu de couleur à tout ça, parce que on ne peut pas faire un week-end de foot sans ces deux-là, quoi.
En tout cas, on n'a pas fait le week-end avec, mais on fera la semaine, puisque mardi et mercredi, il y a une journée de Liga, la 11e journée avec Barcelone et l'Atlético Madrid, notamment à la chasse donc de l'équipe de Grenade, le FC Barcelone, qui accueille ce mardi la formation de Valladolid. Le Barça, qui n'a plus joué depuis sa victoire très compliquée, à Prague, la tout fraîcheur sera donc dans leur camp face à cette équipe Valladolid.
Oui, c'est vrai que ça, c'est, finalement, je vais pas dire que c'est pas plus mal, mais ça arrange bien le Real et le Barça qui n'aient pas eu ce classico, alors qu'il y a un calendrier très chargé et que c'est quand même un petit peu compliqué pour les deux clubs espagnols en Ligue des Champions. Ça fait quand même un match de moins dans les jambes, alors que dans une semaine, cette équipe du Real va avoir un match mais décisif contre le Galatasaray, et que le Barça, qui a souffert pour gagner à Prague, va recevoir ce même Slavia et va pouvoir assurer sa qualif. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont été aussi rapidement d'accord, les deux gros du coup espagnols, pour reporter ça au 18 décembre, après toutes les compétitions européennes, quoi. Donc, bon, c'est pas encore sûr, parce que la Liga n'est pas d'accord sur cette date, mais a priori, ça devrait être le 18 décembre, avec deux équipes qui seront libérées de leurs obligations européennes et qui pourront se lâcher dans le Classico. Parce qu'on sait très bien le poids qu'a le Classico. Le post-classico, c'est un post-classico animal triste un peu, quoi. On sait très bien qu'il y a une débauche d'énergie physique et animique et psychologique qu'on paye quoi qu'il arrive quelques jours après.
Et donc le Barça ne devrait pas avoir de problème face à cette formation de Valladolid.
Aujourd'hui, je peux plus me permettre de donner un favori dans des matchs. Sur le papier, oui, mais... Mais même le Real qui reçoit les Ganes, le Real a perdu à Majorque, Valladolid a perdu à Ibar, a perdu à Bilbao. Normalement, chez lui, le Barça est meilleur. Mais attention, Valladolid est une équipe assez bien structurée, qui est plutôt meilleure à l'extérieur que chez elle. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Mais on voit bien que cette Liga hyper compétitive, hyper resserrée, ne permet pas d'affirmer les choses la veille des matchs.
Ça va, Fred ?
Ça va mieux, ça m'a fait du bien de vous parler, mais vraiment. Hein.
Ah bah c'est génial.
Mais oui, mais c'est ça, vous êtes ma thérapie.
Merci beaucoup. Bah moi ma thérapie c'est Hervé Penaud. Salut Hervé.
C'est de la thérapie lourde là. Hein.
C'est de la thérapie lourde. Merci Fred, je te libère.
Merci les amis, adios.
Ultra chargé, ciao ciao, adios.
Adios, ciao.
Mon cher Hervé.
Oui,
comment
oui,
ça va
bonheur. Eh ben en pleine forme, parce que nous, notre classico, on n'a pas fait comme les Espagnols. Nous, on l'a joué.
Enfin, ça
surtout
dépend.
Une des deux équipes l'a joué.
Ça dépend qui. Parce que peut-être que alors, vous avez joué en tout cas 45 minutes déjà, avec 4-0 en 45 minutes en faveur du PSG. Et Marseille qui n'a pas fait le poids. C'est quand même terrible ce fossé qui sépare aujourd'hui les deux équipes, le Classico français qui délivre presque toujours le même verdict depuis 2011. Il reste certes spectaculaire, ça dépend pour qui, mais le PSG a surclassé très largement Marseille 4-0. C'est en perdre un petit peu la valeur de cette marque qui s'appelle le Classico.
Absolument, faut pas se mentir. C'est-à-dire que le classico, notre classico, plus qu'un nom, c'est une ébauche de classico, c'est un ersatz de classico. Mais évidemment, il y a une telle différence de niveau entre les deux équipes. Alors attention, ça n'avait pas empêché l'année dernière, il y a deux ans, rappelons-nous, hein, le Paris Saint-Germain d'être en difficulté au Stade Vélodrome notamment. Mais à domicile, il y a vraiment une trop grande différence de niveau. Et puis surtout, là, il y a eu une approche du match de la part de André Villas-Boas qui a été un petit peu trop, allez, je vais dire positive. Il s'est dit, il y a peut-être un coup à jouer. Il a voulu une équipe qui a joué très haut. Il a fait une ligne de défense très haute avec des défenseurs jouant le hors-jeu. Alors ils étaient à 30-40 mètres de leur but. Quand vous imaginez la vitesse de Di Maria, la vitesse de Kylian Mbappé, ben vous savez qu'à un moment ou un autre, vous pouvez être piqué par des contres. Et alors, il y a eu une erreur tactique majeure. C'est assez rare quand je pointe quand même des erreurs de l'entraîneur. D'ailleurs, lui-même a avoué qu'il s'était un peu planté dans la préparation de son match. Deuxième mi-temps était un peu meilleur. Mais tout était dit après 45 minutes, 4-0 à la mi-temps, 5 premières minutes intéressantes où il y a Benedetto qui a peut-être une occasion pour frapper, il ne le fait pas, et puis après c'est l'écroulement total face à une équipe qui techniquement est 10 fois plus douée. Ce qui était assez impressionnant finalement avec ce Paris Saint-Germain là, c'est de voir que sur tous les pressings marseillais, il y avait la capacité des joueurs à sortir très tranquillement, très sobrement de tous ces pressings. Et ça c'est quand même la marque d'une équipe déjà qui est largement supérieure, c'est une chose. Et puis maître d'elle-même. Hein. Il n'y a jamais eu d'affolement, il n'y a jamais eu des moments où on a senti un Paris Saint-Germain en difficulté. Et c'est vrai qu'au final, ce score-là, c'est pas très très beau, faut le dire, pour la Ligue 1, et puis même pour ces fameuses rivalités entre le Paris Saint-Germain et Marseille, parce qu'on a eu l'impression que de rivalité, il n'en existait pas. C'est-à-dire, comment voulez-vous rivaliser entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2? Ben, c'était un petit peu ça l'idée de ce match-là. Les Marseillais sont retournés la tête basse. Maintenant, je pense que pour Marseille, tout n'est pas terminé. Hein. C'est une équipe qui est encore 7e du classement, qui a 16 points, qui a 3 points du 2e. Hein. Il y a Paris Saint-Germain et le reste du monde en Ligue 1. Et dans ce championnat assez faible cette année, eh ben, il y a des possibilités de récupérer des points à droite à gauche. Et Marseille va jouer son championnat contre Lille bientôt et contre Lyon dans 2 semaines, où ils vont recevoir Lyon. Donc Lille et Lyon sont vraiment les objectifs de cette équipe de l'OM. Et c'est d'ailleurs pour ça que Villas-Boas, dès la fin du match, il est passé à autre chose. Il a dit, je ne veux même plus parler de la première mi-temps. La deuxième, j'ai adoré mes joueurs. Alors ça, c'était une manière un peu de les embrasser et de leur donner une petite caresse dans le dos. Ils ont été géniaux, ils ont bien joué, ils avaient un état d'esprit remarquable, j'ai été incroyable. Et la première mi-temps, on n'en parle pas. Tout a été étouffé, on met un mouchoir dessus. Je pense qu'il a raison, sincèrement, parce que lui-même s'est planté, les joueurs n'ont pas réussi le match qu'il fallait, et puis bon, il faut passer à autre chose. Et ce autre chose, ce sont des adversaires plus dans les cordes de l'Olympique de Marseille.
Alors, on aime bien parler des trios, bien sûr. Il y a la MSN, la BBC, la GSM, la MCN, et là, on a trouvé la DIM. Di Maria, Icardi, bien sûr, et Mbappé, et qui a créé de telles misères à l'arrière-garde marseillaise que l'écart de but record dans le match phare du championnat de France a été égalé. 4. Moi, je voudrais que tu me parles d'Icardi, de ce début de saison, mais incroyable, hein, depuis qu'il est arrivé. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver ses marques. Et c'est le problème des riches. Ça pose des difficultés aujourd'hui à Tuchel, parce que notre ami Cavani, il aura de moins en moins de minutes à jouer si Icardi garde la même efficacité devant les buts. Et tout ça, en l'absence d'un certain Neymar, on l'oublie déjà celui-là.
Voilà, absolument, ça faut le dire. C'est-à-dire que si notre ami Tuchel garde son système, un système en 4-3-3, par exemple, avec le retour d'Idrissa Gueye, ce qui semble un peu la logique du temps, ça veut dire que même Icardi ne pourrait pas jouer, parce que Neymar, évidemment que s'il revient, il jouera. Mbappé, évidemment qu'il jouera. Et Di Maria, il vole. C'est-à-dire que là, vous avez un joueur hors norme en ce moment dans le championnat de France, et donc il n'y a pas de place pour les autres. Alors, ils pourront s'adapter, jouer un 4-2-3-1 ou un 4-4-2, et effectivement jouer Icardi à la place de Cavani. Parce qu'aujourd'hui, Icardi, il est passé devant Cavani. Cavani, hier, est rentré, imaginez, ailier gauche, comme à une époque où il passait derrière Ibrahimovic en pointe. C'était sa première époque Paris Saint-Germain. Et le fait d'être passé à gauche, ça veut dire beaucoup de choses. Dans l'esprit de Tuchel, aujourd'hui, Icardi est devant. Pourquoi? Parce qu'il est aussi clinique que Cavani, même plus clinique que Cavani. Il est plus juste devant le gardien de but. Et aussi, vous avez la possibilité avec Icardi de jouer au football. Le problème de Cavani, on en a souvent parlé, c'est que techniquement, il n'est pas très juste. Alors, c'est un joueur immense, énorme, que le public adore. Et d'ailleurs, il faut voir l'entrée hier, les applaudissements lors de son entrée hier, c'était magnifique. On sent qu'il y a vraiment derrière lui, il y a tout un stade qui vibre. Mais Icardi, qui a aussi maintenant déjà des favoris dans le public, eh bien, Icardi, il offre cette qualité technique qui permettra à Mbappé, qui permettra à Neymar de jouer avec lui, de combiner avec lui, qui permettra à Di Maria de le faire aussi. Alors Cavani, évidemment, il n'a pas tout ça. Alors on regrettait souvent, on expliquait, Neymar, Mbappé, ils n'ont pas envie de jouer avec Cavani, ils lui font très peu de place. Mais il ne lui faisait pas très peu de place par plaisir, simplement par sentiment que s'il lui faisait la passe, évidemment, il ne reverrait jamais la balle. Donc c'est pour ça qu'il y avait toujours ces petits soucis avec Cavani. Et comme c'est sa dernière année de contrat, on sent bien que c'est la fin qui approche. C'était un joueur immense pour le Paris Saint-Germain, le plus grand buteur, celui qui a marqué le plus de grand nombre de buts avec ce Paris Saint-Germain. Un type hors norme, un état d'esprit remarquable, mais à un moment, quand il vous manque quelque chose, quand d'autres arrivent, quand Icardi arrive, par exemple, et ben malheureusement pour lui, malheureusement pour vous, et ben c'est la fin d'une ère qui a été très importante, mais qui n'a pas permis au Paris Saint-Germain d'aller plus loin. N'oublions jamais que quart de finale Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, avec Mbappé, avec Neymar, avec Icardi, avec Di Maria, il y a peut-être possibilité d'aller encore un petit peu plus haut et de gratter cette place en demi-finale. Et évidemment, hein, quand on pense demi-finale, on pense finale, on pense surtout à une victoire finale en Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Cavani a pris beaucoup de retard sur Icardi. Et puis le fait même qu'il soit rentré, je répète, comme ailier gauche, et non pas comme attaquant de pointe. Il aurait pu faire un changement poste pour poste Icardi-Cavani pour montrer qu'il y avait encore un petit débat. Ben là, d'une certaine manière, c'était en train d'éteindre le débat. Ça voulait dire mon attaquant de pointe aujourd'hui, c'est Icardi.
Voilà, mais il reste quand même Cavani le chouchou hein, du public, du parc, et on l'a vu ce week-end. Bien sûr, le PSG qui gagne, quoi de plus normal. Lyon qui gagne, ça l'est un peu moins en tout cas. Première victoire des Lyonnais avec Rudy Garcia.
Et c'était important, c'était attendu, parce qu'imaginez quand même que Rudy Garcia est arrivé avec une image très marseillaise. Alors déjà, Marseille, ça s'était très mal fini avec les supporters, et quand il est arrivé à Lyon, ça avait très mal commencé avec les supporters lyonnais qui voyaient en lui celui qui avait attaqué sans cesse Lyon quand il était sur le banc de l'OM, qui est un peu l'adversaire numéro un aujourd'hui de l'OL. Eh bien, ça a mal commencé, mais il fallait une victoire, et au bout d'une défaite à Benfica, contre Benfica, d'un match nul simplement contre Dijon, hein, qui est quand même l'équipe dernière du championnat de France, et ben là, il y a eu enfin une victoire. Alors attendez, hein, je peux vous dire, ça n'a pas été bouleversant. Mais c'est quand même 19e du championnat. C'était un match très difficile. Victoire 2-0, un pénalty quasi donné. Donc il y avait 1-0. Et là, ça aurait pu être tendu pour l'équipe de Rudy Garcia. Mais il avait besoin de cette victoire-là. Il avait besoin à un moment de pouvoir redémarrer une sorte de série. Ils vont à Toulouse en fin de semaine. Ce ne sera pas simple, attention, parce que ce Lyon-là, aujourd'hui, est loin, loin d'être guéri. C'est vraiment un Lyon en convalescence.
Merci
c'est un
beaucoup.
Lyon qui a besoin. D'accord.
Je te laisse finir ta phrase.
Oui. Juste disons, un Lyon en convalescence, et donc il va falloir débuter une série, et une série ça commencera par une deuxième victoire contre Toulouse à Toulouse ce samedi.
Merci beaucoup mon cher Hervé Penaud, merci également à Fred Hermel pour la Liga. C'est la fin de cette première partie de l'après-match, on se retrouve tout à l'heure pour la seconde partie. La seconde partie de l'après-match, les amis, pour évoquer, bien entendu, le championnat d'Italie, la Première Ligue anglaise et la Bundesliga. D'abord, la Première Ligue, représentée par notre consultant pour le football anglais, Aurélien Devernois. Salut Aurélien.
Salut Jalal, bonsoir à tous, comment ça va?
Super bien, mieux que Fred Hermel en tout cas, mieux que Fred Hermel qui était très très énervé, mais il était énervé au départ quand il nous a rejoint dans l'émission, il était super heureux à la fin. J'espère que vous allez être heureux du début jusqu'à la fin, et je pose la question à Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Comment je peux être d'un autre sentiment que ce soit pas heureux quand je suis avec vous,
voilà.
Avec vous, les amis, les auditeurs, les supporters.
Aïe, oh, aïe, aïe. Magnifique. Les belles paroles de l'italien de l'équipe. Mais c'est pas une raison pour que je commence par la Serie A. Hein. Je suis désolé.
Dommage.
Tu t'énerves ou pas? Parce que la Première Ligue anglaise reste quand même un championnat magnifique. Et ce match, franchement, Liverpool-Tottenham, moi je pensais que je suivais vraiment une demi-finale de Ligue des Champions, tellement tout était là, l'intensité, la technique, la justesse, l'émotion, tout, absolument tout. Et Liverpool qui répond toujours présent, Liverpool qui était vraiment empêtré dans de mauvais draps à l'occasion de cette rencontre et qui arrive finalement à l'emporter 2-1. Face à une équipe de Tottenham qui n'a pas démérité. On retrouve enfin Tottenham. Liverpool, solide leader. Liverpool qui garde ses 6 points d'avance sur Manchester City.
Oui, c'était même une ambiance de finale de Ligue des Champions, puisque c'était l'affiche de la dernière finale
exact.
Cette saison.
Et, non, et il était meilleur. Franchement, le match de dimanche, c'était meilleur que la finale. Hein.
Oui, parce que je pense que Tottenham était peut-être un peu plus libéré. Ils n'avaient pas grand-chose à perdre en se déplaçant à Liverpool, parce que c'est vrai que cette saison est un peu compliquée pour les joueurs de Pochettino. Et là, ils avaient repris un peu confiance en Ligue des Champions la semaine passée, et donc ils étaient vraiment très motivés à l'idée d'aller, on va dire, un peu titiller le leader. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Imaginez 47 secondes de jeu et Tottenham ouvre la marque. Donc ça a déjà un peu plombé l'ambiance à Anfield. Et puis après, ça a été vraiment un match à l'anglaise. C'est allé d'un bout à l'autre des cages d'un côté Gazzaniga et de l'autre côté Alisson, avec des très grosses performances d'ailleurs, hein, du gardien remplaçant de Tottenham, hein, qui a vraiment fait un très très beau match pour l'occasion. Et Tottenham a tenu, aurait même pu à un moment mener 2-0. Il y a eu une barre de Son en tout début de seconde période. Et finalement, la pression de Liverpool a été trop forte, parce que Liverpool, non seulement a une équipe extrêmement costaud, mais en plus ils ont un mental quasiment à toute épreuve. C'est un mental qui s'est bâti dans la douleur, dans les défaites, dans les déceptions. Et aujourd'hui, pour aller battre Liverpool sur son terrain, pour aller l'empêcher de dérouler son jeu, c'est très 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 compliqué. Ça s'est joué sur des détails, encore une fois, hein. Ça s'est joué sur un mauvais placement de Danny Rose qui permet à Anderson d'égaliser. Ça s'est joué sur un mauvais réflexe de Aurier qui a fait faute sur Mané et qui a provoqué ce penalty. Mais au final, c'est encore une victoire de Liverpool.
Voilà donc une victoire importante à triple titre, Aurélien, puisque les Reds, bien entendu, ils ont su réagir après avoir été menés au score en première période, dès la deuxième minute. Elle leur permet aussi de conserver 6 points d'avance sur City, comme je le disais, de confirmer enfin leur force irréelle à domicile, où ils ont remporté leurs 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cela pourrait compter dans 2 semaines pour la réception, bien entendu, de leur principal rival pour le titre qu'ils attendent depuis 3 décennies maintenant.
Oui, complètement, complètement. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour Liverpool, qui va encore enchaîner cette semaine, puisqu'ils vont recevoir Arsenal en Coupe de la Ligue. Donc ça va faire encore un match quand même compliqué à jouer pour les Reds, qui en plus sont un peu obligés de faire tourner l'équipe, et c'est pas trop c'est pas trop la philosophie de Jurgen Klopp de faire tourner, donc on sait pas trop qui va être aligné dans cette rencontre. Liverpool a bien fait d'engranger des points en Premier League, en effet, avant ce match peut-être un petit peu dangereux en League Cup cette semaine. Et puis après, le week-end prochain, c'est un déplacement à Aston Villa qui va pas forcément être évident non plus. Donc voilà, Liverpool avait besoin de vraiment se rassurer, parce que le jeu n'a pas toujours été toujours très stable non plus ces dernières semaines. Et puis aussi parce que Manchester City est très costaud et lâche pas l'affaire. Hein, parce que la victoire de City contre Aston Villa, justement, ce week-end, ça a été une victoire assez autoritaire. Et Manchester City, on sent qu'ils ont eu un petit passage à vide il y a un mois. Mais là, ça revient fort. Et Liverpool a vraiment intérêt de ne pas lâcher des points en route en Premier League.
La Première Ligue avec incroyable défaite, ou alors victoire de Leicester contre Southampton, 9-0. J'ai préféré que Fred Hermel ne soit pas là avec nous quand on parle de score pareil, parce que là, on va...
Oui, mais il y a 10 ans, c'est ce que mettait le Barça tous les 3 matchs en Liga. Il ne va pas nous embêter avec un petit 9-0 sur la pelouse de Southampton.
Exactement. Et les joueurs de Southampton qui ont décidé d'ailleurs de pas toucher de salaire et de rembourser en tout cas les frais, je pense, de déplacement de leurs supporters. Mais 9-0, c'est quand même... Allez, beaucoup.
Ah de toute façon, c'est simple, ça n'était jamais arrivé, jamais une équipe à domicile avait pris autant de buts en 131 ans de ligue professionnelle de foot en Angleterre. Donc vous voyez, ça, on pouvait difficilement faire pire. Ça a été catastrophique, mais ça a été catastrophique à plein de niveaux. Déjà, les conditions de jeu étaient complètement irréelles, le temps était vraiment terrible, avec de la pluie, du vent et tout. Je sais même pas comment Leicester a réussi à cadrer 15 tirs, tellement les conditions étaient difficiles. Ils en ont cadré 15, ils en ont mis 9, donc en termes de réalisme, de toute façon, Leicester, depuis le début de saison, sont extrêmement réalistes devant le but, et notamment Jamie Vardy, qui est désormais meilleur buteur avec son triplé. Et puis, il y a eu une décision, moi, qui me semble complètement irréelle de l'entraîneur de Southampton, c'est Ralph Hasenhüttl. Il y a une expulsion de Ryan Bertrand à la 12e minute, donc il perdait déjà 1-0. Et là, au lieu de faire de faire rentrer un joueur poste pour poste, il fait rien. Et du coup, l'équipe est complètement désorganisée. Ils en prennent 4 dans la demi-heure qui suit. C'est assez incroyable. J'ai pas trop compris la stratégie de coaching de l'entraîneur de Southampton sur le coup, mais je pense que quand il va re-regarder ce match, s'il ose le re-regarder, je pense qu'il va un peu se remettre en question. Et puis après, plein de records du coup ont été battus. Ça faisait, je crois, 15 ans qu'il n'y avait pas eu 2 triplés. De joueurs de la même équipe dans un match. Ça datait d'Arsenal. Ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu 9 buts marqués sans que l'équipe qui a marqué ses 9 buts en ait encaissé. Et alors, c'est assez marrant parce que la dernière fois, c'était qui? Eh ben, c'était Manchester United. Et qui c'était le gardien de Manchester United? Eh ben, c'était Peter Schmeichel, le père du gardien de Leicester. Donc, vous voyez, il y a un peu de l'histoire dans ce match. Et dans l'autre sens, c'est assez marrant aussi parce que l'une des plus grosses défaites de l'histoire en Première Ligue, c'était un 7-1. C'était Ipswich, je crois, qui avait pris 7-1. Et le gardien à l'époque, eh ben, c'était le père du gardien de Southampton maintenant. C'était Peter Gunn, je crois, et son fils Angus. Donc, on a pris 9 dans cette rencontre.
Et la boucle est bouclée. J'aimerais qu'on parle aussi de Manchester United. J'ai mieux quand même pour les Red Devils qui ont remporté leur première victoire en championnat. Depuis la mi-septembre, une victoire sur le terrain de Norwich 3-1. L'équipe de Manchester toujours privée de Paul Pogba qui ne devrait reprendre. On a eu des infos aujourd'hui à son sujet que vers le mois de décembre, ils ont été rassurés par leur score de parité face à Liverpool dimanche dernier. Match nul un but partout. Une victoire sur le terrain du Partizan en Europa League 1-0. Ils sont aujourd'hui 7e position, mais ils ont toujours les mêmes problèmes. Ils n'inspirent vraiment pas confiance à leurs supporters, les Red Devils. Et avant cette victoire sur le terrain quand même du relégable, hein, quand même Norwich, c'est pas même une foudre de guerre. Cela faisait 2 mois et demi qu'ils n'avaient pas réussi à marquer plus d'un but dans un même match, les Red Devils.
Oui, alors c'est vrai que ça va quand même un peu mieux, et notamment parce que il y a le retour d'Anthony Martial et que la doublette. Alors c'est une triplette en attaque en réalité parce qu'il y a Daniel James qui joue à droite et qui est très bon d'ailleurs. Mais l'entente entre Marcus Rashford et Anthony Martial est vraiment excellente et ça s'est vu sur cette rencontre. Et du coup, on a vu des phases de jeu, des combinaisons qu'on n'avait pas vu quasiment depuis le début de saison à Manchester United, tout simplement parce que Martial était blessé depuis le mois d'août. Donc c'est vrai que ça a permis on va dire dégager un petit peu le ciel du côté de Manchester United, même si quand même ils ont réussi à rater 2 pénaltys dans cette rencontre, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais bon, voilà, ça a été plutôt satisfaisant pour les joueurs de Solskjaer, même si encore une fois, c'est pas extraordinaire en défense. Ils auraient pu avoir un expulsé, ça aurait pu tourner un peu plus mal quand même dans cette rencontre. Mais globalement, la victoire est là, une victoire à l'extérieur. Ça permet en effet de se rapprocher des places européennes. Finalement, ils sont qu'à 3 points d'Arsenal, qui est 5e. Il y a moins le feu à la maison des Red Devils que ce qui pouvait être le cas il y a encore 2 semaines.
Merci beaucoup Aurélien de Vernois, notre consultant pour le football anglais. On va du côté de l'Italie retrouver Simone Rovera. Rebonsoir Simone, totalement déchaîné. L'Atalanta Bergame, on a parlé de 9-0 là pour Leicester contre Southampton. Et ben l'Atalanta Bergame s'est imposée 7-1 contre l'Udinese. Elle confirme sa 3e place au classement. On a du mal avec cette équipe de l'Atalanta Bergame entraînée par Giampiero Gasperini. Bien sûr, c'est plus du tout une surprise, mais cette équipe a 2 visages. Bon, championnat au commun, elle colle, elle est toujours derrière le duo tête, la Juventus et l'Inter. Mais en Ligue des Champions, elle a disputé 3 matchs et les a perdus tous les matchs de cette équipe en Ligue des Champions.
Oui, et je pense qu'il y a un discours vraiment compliqué à faire sur l'Atalanta, ou quand même il faut le faire, qui va au-delà du terrain, du football, parce que l'Atalanta parfois perd un peu le contrôle de ses nerfs, à l'image de Giampiero Gasperini, qui est un entraîneur extraordinaire, mais dehors du terrain, parfois il se lâche à certaines considérations et à certaines phrases. Il est un peu toujours victime d'un complot imaginaire contre lui, que ce soit des arbitres, que ce soit de son passage à l'Inter. Donc, c'est quelqu'un qui, parfois, n'arrive pas à transmettre la sérénité qu'il faut. Et en Ligue des Champions, on a l'impression vraiment qu'ils sont présentés peut-être avec trop d'ambition. Moi, j'étais le premier à voir l'Atalanta faire bien dans cette groupe avec ses adversaires quand même jouables, comme Shakhtar et Dynamo derrière Manchester City. Par contre, la marche était vraiment trop haute. Imaginez, aujourd'hui on parle d'une Atalanta 3e, bien sûr, mais imaginez que la semaine dernière, en Serie A, l'Atalanta menait 3-0 à la mi-temps à Rome face à la Lazio et s'est fait égaliser 3-2 avec les 2 points perdus. Il serait à la même hauteur de l'Inter, juste derrière la Juve. Et c'est pour ça qu'en Italie, beaucoup de médias beaucoup même des directeurs de médias commencent à faire une hypothèse folle, totalement fantasieuse, mais pourquoi pas. Et si l'Atalanta était une des candidats à jouer les titres, et si l'Atalanta, en sortant de la Ligue des Champions dans la première phase, pouvait devenir un vrai antagoniste de la Juve pour les titres. Ce serait une histoire incroyable. Bien sûr, les 7 buts renforcent les jeux de l'Atalanta, la position, la vitesse de Muriel à hauteur d'un triplé, les talents de Iličić et Gomez. Et imaginez que l'Atalanta a toujours absent Duvan Zapata, meilleur buteur Nerazzurro la saison dernière, deuxième meilleur buteur de la Serie A. Et donc, oui, pourquoi pas rêver une Atalanta comme Leicester en Angleterre, être les troubles faits dans ces duels entre Juve et Inter.
La Juve et l'Inter qui n'ont pas gagné ce week-end. La Juve avec bien sûr Ronaldo qui se repose et cette équipe qui est en galère. Et puis l'Inter avec déjà notre ami l'entraîneur Antonio Conte qui réclame du renfort pour le mercato d'hiver.
Et sa demande pourrait être accueillie parce qu'aujourd'hui il y avait l'assemblée des socios à l'Inter et il y a eu la phrase du directeur général en disant on est prêt à faire quelque chose d'important dans le mercato de janvier. C'était quelque chose d'important. Je vous dis déjà que dans la liste d'Antonio Conte, il s'appelle Ivan Rakitic. Donc à voir s'il y aura un croate en plus dans l'équipe de Brozovic qui était de Perisic, pour rendre Saint-Inter à la hauteur de la Juve, au moins dans l'ambition. Mais c'est vrai, parce que la journée où Cristiano est laissé au repos, et il est venu se balader à côté de chez moi, après un dimanche après-midi de repos, et la Juve montre d'avoir des défauts, toujours la même. Elle crée beaucoup d'occasions, elle concrétise peu, elle marque pas de but, elle a besoin d'un penalty pour arriver à marquer les premiers. Et juste derrière, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, encore une fois, une main de Delict, une erreur défensive du jeune néerlandais qui condamne la Juve au penalty, à l'égalisation. Mais si l'erreur de la Juve, ça peut arriver, ce qui ne peut pas arriver pour moi, c'est que l'Inter, qui joue 3 heures après, n'a pas la force d'aller gagner à domicile face à Parme. Et c'est pour ça que Conte est très énervé. Déjà un peu contre les limites plus caractérielles, je trouve, que techniques de ses joueurs, mais aussi les limites, comme j'ai dit depuis le début de la saison, d'un effectif qui n'est pas peut-être bâti pour lutter avec la Juve. Et il y a une différence, vrai. L'Atalanta s'est fait balader en Ligue des Champions. Juve et Inter mettent les 100% des énergies en Ligue des Champions, comme Napoli, qui gagne. Et les trois n'arrivent plus à faire une victoire dans le week-end.
Reste avec nous, mon cher Simonet. On va accueillir David Lortolaris. Salut David.
Bonsoir Jalal. Salut à Simonet. Salut à tous.
On a parlé de Grenade, bien sûr, en Espagne. Le Borussia Mönchengladbach, lui, conserve seul la tête de la Bundesliga devant le Bayern après une convaincante victoire 4-2 à domicile contre Francfort.
Oui, alors autant Simone l'a vécu parce que c'était contre l'AS Roma à Rome, autant en Coupe d'Europe, le Borussia n'est pas encore tout à fait crédible, n'est pas encore à la hauteur, autant ce Mönchengladbach en championnat, il est en pleine euphorie. Il bénéficie de l'apport de cet entraîneur qui était courtisé par tout le monde, Marco Rose. Il bénéficie d'un bon groupe avec des remplaçants qui sont crédibles, comme par exemple Lars Stindl, l'attaquant international, ancien international, qui est entré ce week-end. Et bien, il a livré un formidable match ce dimanche contre Francfort, avec de l'allant offensif, avec la capacité aussi à faire front lorsque Francfort, qui est une équipe très coriace, est revenu au score deux fois. Le Borussia a su s'imposer et bien il est leader deux journées de suite pour la première fois depuis 1976-1977. Et cette année-là, il avait été champion. Alors on en est loin encore, mais forcément à Mönchengladbach, on a beaucoup de reconnaissance et on donne beaucoup de crédit à cette équipe et à cet entraîneur, Jalal.
En Allemagne, il y a eu également ce derby de la Ruhr entre, bien sûr, l'équipe du Borussia Dortmund et Schalke 04. Et match dans le match, la confrontation entre les deux lions de l'Atlas, Achraf Hakimi et Amin Harit.
Oui, alors il y a eu des occasions des deux côtés, mais la presse, avant le match, avait vu juste. Et on en avait parlé aussi vendredi dans l'émission. On se regardait les yeux dans les yeux cette année entre ces deux équipes pour ce match aller, ce derby aller, parce qu'il y a très très peu de différence actuellement entre Schalke et Dortmund sur les talents, sur la qualité des deux équipes aujourd'hui, sur ce qu'elles arrivent à produire sur le terrain. Et le 0-0 à l'arrivée est un peu décevant peut-être pour le spectacle, mais il y a eu quand même c'était conforme à ce qu'on attendait, des occasions quand même des deux côtés. Dortmund est un peu en deçà de ce qu'on attend, il y a une frustration à Dortmund, on le répète émission après émission. Schalke, lui, de son côté, confirme son bon état et son spectaculaire redressement par rapport à la saison prochaine. Aujourd'hui, c'est plus du tout le Schalke qu'on a connu la saison dernière, et un joueur justement comme Amin Harit arrive à s'exprimer parce que son entraîneur sait lui donner le bon discours et sait proposer à son équipe un jeu haut, un jeu offensif, un jeu de pressing qui est beaucoup plus intéressant que le jeu défensif précédemment pratiqué par Schalke. Donc ça a donné un 0-0 certes, mais un 0-0 quand même de bonne facture.
Les amis, je vous fais confiance, je vais vous ouvrir le micro à tous les deux pour une petite minute pour me parler de Ribéry, quelqu'un que tu connais très très bien, mon cher David Lortolari, qui a sévi pendant de très longues années en Allemagne et que l'Italie découvre. Il a été expulsé pour avoir à la fois poussé et l'arbitre assistant et son entraîneur, Simone.
il était très énervé. Déjà, il faut partir de du match où la Fiorentina perd face à la Lazio. Ribéry doit sortir parce que Montella décide que c'est le moment d'échanger. Il perd totalement ses nerfs sur le banc des touches. Il en veut à tout le monde. Il explique pourquoi il ne devait pas sortir. Montella dirait « j'ai pas vu ». Et à la fin du match, qu'est-ce qu'il fait? La Fiorentina considère être victime d'une erreur d'arbitrage et s'en prend forcément à une arbitre assistante qui était à côté de lui. Elle les pousse. En Italie, on parle, il prend un carton rouge sur ses gestes. En Italie, on parle déjà qu'il devrait recevoir 4 journées de suspension. Donc, dans les moments meilleurs de sa saison, où il lançait vraiment la Fiorentina, il risque d'avoir un long stop pour des raisons de son comportement sur le terrain.
David, en quelques secondes, il en a l'habitude de ses coups de sang?
Oui. Moi, j'ai été très amusé en voyant cela, en étant un peu à distance. Il avait eu toutes les peines du monde, Franck Ribéry, avec le Bayern, au cours des 12 années, à se canaliser un petit peu, à accepter des règles strictes. Et il avait parfois, effectivement, il était sorti un peu de ses gonds, mais au fil du temps, il s'était quand même calmé. Et on retrouve ce caractère chaud, ce caractère latin. Et en Italie, j'ai été amusé parce que pour moi, c'était une question de temps avant que ça ne se reproduise. Franck Ribéry n'est jamais complètement contrôlable. Et ça, on le sait, et voilà, on en a eu la preuve à nouveau ce week-end.
Merci beaucoup, les amis. Merci à David Lortolari, Simone Rovera, Aurélien Devernois, Hervé Penaud et bien sûr Fred Hermel. Merci à Nawel, notre réalisatrice. Jalal Bouzrara avec vous tous les lundis pour l'après-match. Ciao, ciao, les amis.